La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce lundi pour la troisième mi-temps Sud Radio qui reprend ses droits comme l'année dernière pour toute la saison évidemment pour débriefer le top 14, la Champions Cup, le tournoi destination. On va débriefer tous les lundis ce qui s'est passé dans le week-end rugby que vous avez vécu sur Sud Radio et l'équipe, c'est la même que le vendredi. Julien Delmas, Étienne Machin, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Cyprien, bonjour Étienne.
En forme après ce premier week-end, vrai gros week-end rugby.
Très très en forme, oui.
Ouais,
très en forme.
Ouais, ouais, c'était très plaisant de retrouver un petit peu toutes les équipes, voir les formes actuelles. Il y a quelques surprises, on va en parler.
Ouais, évidemment, on va en parler puisque, évidemment, vous le savez, on va revenir sur cette première journée de top 14 qui a vu Bayonne s'imposer 27-26 face à Toulon, Castres s'imposer face à Vannes 29-20, Lyon disposer de Clermont 40-36, Montpellier est tombé à domicile face à Pau 27-19, Stade Français s'est fait peur mais bat Perpignan 28-26. La grosse victoire. Le gros carton du week-end, c'est pour l'UBB qui bat le Racing 92 64-5. Et enfin, sur le gong en ce dimanche soir, La Rochelle a battu Toulouse 30-27. Ce qui donne au classement, c'est simple, une équipe qui se détache déjà. D'un petit point, l'UBB, puisque c'est la seule équipe à avoir pris un bonus offensif. 5 points suivent ensuite les victorieux du week-end, donc Castres, Pau, Lyon, La Rochelle, Stade Français, Bayonne. Ensuite, ceux qui ont récupéré un bonus défensif, Toulon, Perpignan, Toulouse, Clermont. Et ceux qui ferment la marche, Montpellier, Vannes et le Racing 92. Messieurs, dans ce podcast, on va se poser une question simple. Au vu de cette première journée et de l'état de forme, de la sensation d'état de forme en tout cas, on va se demander si c'est la bonne saison, la bonne année pour l'UBB pour aller glaner, chercher ce bouclier de Brennus. Évidemment, il est très tôt dans la saison, mais c'est vrai que les Bordelais ont impressionné. Alors, juste pour remettre un peu de contexte, pas qualifié la saison dernière en top 6, pas de phase finale pour eux, double champion d'Europe en titre, une plage de repos plus grande pour la majorité des joueurs, quelques joueurs rappelés néanmoins avec le 15 de France qui ont repris en décalé, mais une sensation d'avoir une équipe très très en forme. Étienne, pour toi, est-ce que c'est la bonne saison, l'année ou jamais presque pour l'UBB ?
Pour moi, ouais, ça peut être la bonne saison cette année. L'UBB l'a très bien montré ce week-end avec sa très large victoire face au Racing. Donc si c'est pas cette année, je vois pas quand est-ce que ça peut être. Quand on voit la prestation qu'ils ont fait hier, oui, pour moi, ça peut être cette année pour l'UBB.
Ouais, c'est une grosse année, évidemment. Ils ont appris, en plus, vendredi soir, la prolongation de Louis Biel-Biarry. Il y a une vraie continuité dans ce club. Est-ce qu'il y a, pour toi, la profondeur nécessaire? Parce que c'est long. Et puis, je pense qu'ils ont quand même dans leur coin de la tête d'aller chercher le triplé de Toulon en Champions Cup.
Ils ont, ouais, je pense qu'ils l'ont dans un coin de leur tête. Mais ils ont surtout aussi dans un coin de la tête la non-qualification, je pense, de l'année dernière en top 14. Et ils vont très certainement pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont fait l'année passée. Je pense que le top 14 va être, je dirais pas leur premier objectif, mais presque, à mon avis. Et ils ont la profondeur d'effectif, ce qui va peut-être... C'est Romain Bureau, justement, qui disait en conférence de presse que on va pas trop s'emballer, il faut juste qu'on garde cette constance qui nous a un peu manqué l'année dernière et sur les saisons passées. Mais s'ils l'ont cette année, ouais, ils peuvent faire des très gros dégâts en top 14. Ouais.
S'emballer, Romain Bureau se le disait, est-ce qu'on s'emballe un peu trop déjà avec Julien ouais.
Je suis assez d'accord avec Romain Bureau, on s'emballe peut-être un petit peu, déjà ça fait une journée. Moi je suis pas forcément encore trop d'avis de les mettre favoris et ou de dire que c'est leur année. Une victoire certes énorme, mais quand on a vu le match et quand on a vu la performance du Racing, je pense qu'il y a au moins 4 équipes ce week-end qui auraient pu mettre la même chose au Racing.
Ok.
Ouais, j'aurais mis Pau dedans, j'aurais mis peut-être La Rochelle aussi. C'est trop tôt dans la saison. Alors, est-ce qu'on aurait fait ce débat si Toulouse avait gagné hier soir? Ou est-ce que c'est parce que vous sentez l'odeur du sang, que le champion saigne, que les requins arrivent?
Non, je pense sincèrement, en toute transparence, je pense que si Toulouse avait battu La Rochelle, ce La Rochelle-là, du côté de Marcel de Flandre ce dimanche soir, je pense que la question c'est, est-ce que ça va être un duel entre Bordeaux et Toulouse cette saison? Toulouse, évidemment, fera partie des favoris, 4 fois champion de France de suite, il vise le 5e et le record absolu jamais fait. Néanmoins, est-ce que l'UBB, alors au-delà de dire c'est la bonne année ou pas, est-ce que se pose en candidat numéro 1 derrière Toulouse pour aller chercher le bouclier de Brennus? En effet, la performance du Racing 92 est à prendre en compte sur l'engouement qu'il y a eu, mais néanmoins 10 essais passés par les Bordelais, et c'est simple, il y a eu 4 essais en 14 minutes. Donc du coup, il y a quand même
dont deux essais à 14 en plus.
Et dont deux essais à 14, en effet, parce qu'il y a eu le carton orange de Pacazzé qui le pilier sur un déblayage. Mais donc du coup, quand tu vois la performance, et surtout moi, basiquement, je regarde la composition. Derrière, c'est Lucu, Jalibert, Moefana, Deporter, Penaud, Bielbarré, Burros. Demain, tu les mets sur une composition du 15 de France.
Ça fait le taf.
Tu te dis pas, c'est indigne, quoi.
L'effectif est parfait. Il y a rien à redire sur ça. Moi, je mettrais plus un paramètre en compte. C'est la capacité à gagner dans les matchs qui comptent, dans les phases finales. Oui, non, vrai, faux. On sait que cette formule top 14 nous implique 6 équipes, les 6 premières. Et qu'au final, les cartes, elles sont quasi toutes remises à zéro pour ces 6 équipes à la fin. Je les ai pas vues très performantes sur les phases finales de top 14 dernièrement. C'est pas le cas de la Coupe d'Europe. Là aussi, il faudra voir quels choix ils font, comment ils s'organisent pour mettre leurs pièces là où ils veulent. Ça va être compliqué de jouer les deux.
C'est ça. Est-ce que déjà c'est possible de jouer les deux?
On l'a vu l'an dernier, ça a été compliqué en tout cas. Parce que déjà, très content, bon, ils ont fait la fête, c'est normal aussi. On a vu qu'ils sont jamais vraiment revenus de cette troisième mi-temps de Coupe d'Europe. Alors, il faudra fonctionner différemment cette année. En attendant, je pense pas que ce soit trop bien de les voir trop favoris trop vite.
Est-ce que c'est une bonne chose pour eux d'être catalogués comme favoris ou allez, co-favoris ou avec, on va dire, l'étiquette d'outsider numéro 1 pour les Bordelais ou c'est une pression supplémentaire pour eux, Étienne ?
Je pense que c'est une pression supplémentaire pour eux. Il y a très peu de clubs qui aiment avoir ce statut de favori. On préfère toujours être un peu outsider pour aller...
C'est très français, ça.
C'est très français, voilà. Avoir moins d'attentes sur les épaules. Mais Bordeaux, qu'ils le veuillent ou non, oui, pour moi, avec cette première journée, ils sont favoris. Et surtout, ce qui m'a impressionné ce week-end, c'est qu'on a souvent vanté les trois quarts bordelais. Et ce week-end, ce sont les avants qui ont fait le taf. On a eu deux doublés de Willis. On a eu un lot de doublés, justement, de Cameron Wookie. Bon, il y a eu Bielbiaré qui a...
Et Beauchaton, le dernier troisième ligne.
Et Beauchaton qui a aussi...
La troisième ligne a marqué 5 essais sur les 10, quoi. La moitié
donc,
des essais de la troisième ligne.
Si les avants bordelais se mettent à marquer autant que les trois quarts, ça risque d'être très compliqué pour les adversaires. Et c'est ça, ce week-end, qui m'a surtout impressionné. C'est qu'avant, c'était surtout les avants qui faisaient le taf et les trois quarts qui finissaient. Et là, ce week-end, on a eu les deux.
Et du coup, est-ce que les recrues, notamment l'arrivée de... évidemment, on va parler de lui, de Tom Willis devant Étienne, est-ce que ça peut faire basculer Bordeaux dans une autre dimension, dans un autre objectif? Pour rappel, Tom Willis, le frère de Jack Willis, qui est au Stade Toulousain depuis quelques saisons, élu meilleur joueur la saison dernière en première chip avec les Saracens. On a vu déjà sur cette première journée l'effet Tom Willis, Étienne.
Ah oui. On l'a très bien vu, oui. C'était simple sur le terrain, il faisait ce qu'il voulait, Tom Willis, comme son frère, Jack, au Stade Toulousain. Donc oui, Tom Willis va peut-être amener ce petit truc en plus qui manquait à Bordeaux l'année passée. On va voir, en tout cas, sur la première journée, il l'a complètement montré. Et il donne déjà rendez-vous la semaine prochaine face au Stade Toulousain. Ça risque d'être très impressionnant.
Est-ce qu'il y aura un duel Willis face à Willis la semaine prochaine?
Je sais pas, il est pas encore en canne, non?
Je
ne
sais pas encore s'il sera remis. Mais en tout cas, c'est vrai que deuxième journée, hein, Toulouse-Bordeaux, Julien. Ouais. On sait que généralement, ces dernières saisons, l'une ou l'autre équipe faisait un peu l'impasse parce qu'il y avait beaucoup, c'était arrivé surtout, ces matchs-là, pardon, arrivaient beaucoup en milieu de championnat et donc, du coup, on faisait tourner un peu l'effectif. Là, dès la deuxième journée, Bordeaux peut pas faire l'impasse. Non. Bordeaux va aller se tester et Toulouse va tenter de corriger
le tir
après la défaite face à La Rochelle.
Ouais.
S'il y a défaite la semaine prochaine du Stade Toulousain contre Bordeaux,
range ce sourire vite.
Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi? On refait un podcast la semaine prochaine en disant est-ce que c'est la fin du grand Stade Toulousain?
Ouais, ben oui. J'imagine que c'est comme ça que tu vas venir me voir lundi matin. Mais non, alors. Hugo Mola, comme beaucoup d'entraîneurs, a sorti l'excuse de « on est encore en match de préparation ». Alors celle-là, je peux plus m'entendre déjà.
C'est crédible, ça ?
Non.
C'est crédible à la limite pour le Stade Toulousain où ils ont pas mal d'internationaux, ils reviennent plus tard.
Je sais pas, on dirait qu'ils se sont donné le mot, que c'est l'excuse universelle. On a entendu Colazo dire ça alors qu'ils en ont pris 60. Ok, on est encore en match de préparation, mais même en match de préparation, c'est pas censé en prendre 60. J'ai entendu Mola aussi le dire hier. Bon, ben là, ok, plus d'excuses. On va avoir Bordeaux qui arrive. On connaît la rivalité qui est entre ces deux club. Est-ce que Bordeaux arrive en favori? Je sais pas. Il va falloir corriger ses imprécisions demain. Il va falloir corriger toutes ces bavures de ballon qu'on a pu voir hier soir, qui étaient hyper frustrantes, mais d'un côté comme de l'autre. Alors, même si il y avait peut-être le climat qui faisait que. Ça va être compliqué. Les deux équipes vont jouer à fond. J'ai hâte de voir ce match. Voilà. Mais puis ça va décider. Là, on pourra faire un débat plus précisément, je pense.
Exactement. Et puis, c'est important quand même de dire, donc, on se demande si c'est la bonne saison pour Bordeaux, parce que, en effet, les joueurs cadres de cette équipe bordelaise, la plupart, vieillissent. Alors, ils sont pas non plus proches de la retraite, mais un Maxime Lucu, on a l'impression qu'il est dans la forme de sa vie depuis quelques mois. Ouais. Jalibert, il marche sur l'eau dès qu'il a pas une petite douleur, et heureusement, on lui souhaite pas du tout. On a l'impression que Moefana de Porter, c'est l'association parfaite, que Penaud, avec cet objectif Coupe du Monde, va devoir sortir une grosse saison. Devant, tu l'as dit, un Cameron Wauquiez, lui aussi, espère peut-être voir la Coupe du Monde et a envie de sortir une grosse saison aussi. Est-ce que tout ça peut mettre en fait une alchimie, et puis ils sont quand même dans une dynamique de victoire, deux fois champion d'Europe, c'est pas une équipe de losers qui font que perdre, comme Clermont malheureusement une période qui n'arrivait pas du tout à aller chercher un titre.
Encore une fois, ça a super bien joué Bordeaux samedi, mais en face ça ne défendait pas. Moi je pense qu'ils ont eu de quoi briller, ils se sont bien amusés, ils ont été dans un fauteuil.
Face à une bonne équipe, c'est quoi, c'est 35 points, pas plus.
Ouais, et puis en tout cas peut-être plus d'encaissés aussi, et puis peut-être moins de franchissement des troisième lignes, parce que là, comme on a dit, les troisième lignes ont brillé bien sûr, mais personne n'a plaqué en face, personne n'a défendu. J'ai rarement vu ça.
Donc ça ne reflète pas du tout. Le score ne reflète pas la performance tellement l'adversaire a été faible ce samedi.
Non, à mon avis, non. Et on verra si la semaine prochaine ils rééditent l'exploit. Là, peut-être ils m'auront fait mentir et je dirais le contraire. Mais là, pour moi, ça n'est dû qu'à la troisième
performance. Si la semaine prochaine ils en mettent 30 ou 40 points au Stade Toulousain à Toulouse,
vous ne me verrez pas lundi matin.
ça voudra dire beaucoup, parce que la troisième ligne de Toulouse, c'est quand même quelque chose aussi. Les trois quarts toulousains, ça va être pareil. Donc non, je pense que la semaine prochaine, vraiment, qu'on va avoir ce gros test.
Et ça arrive pas souvent que Toulouse perde.
Et ça arrive pas souvent. Mais autant plus à la maison pour la première. Et en plus en début de saison non plus.
Surtout encore une fois, on le rappelle, deuxième journée, donc deux équipes qui vont jouer quasiment avec leur équipe type. Je pense que Bordeaux, il y aura peut-être un ou deux changements pour faire ménager, notamment sur la première ligne, pas mal impactée. Mmh. On sait, avec le carton du coup orange du pilier, avec la blessure de Poirot, avec l'absence de Sadi qui est toujours retenu avec l'Afrique du Sud, donc du coup on va voir comment ils vont gérer ça. Mais évidemment, on parle de Bordeaux-Toulouse, ce sont les deux gros épouvantails de ce top 14. Que dire de la section paloise? On parlait d'eux la saison dernière, qualifiés dans le top 6, perdu en barrage contre le Racing à domicile, mais ils marquent déjà ils tapent déjà du poing sur la table en ce début de saison pour dire attendez, on va les gagner chez le finaliste Montpellier, et avec la manière crédible toujours ces Palois, Julien.
Ah, plus que jamais, avec une équipe forte. On l'a dit, on l'a répété tout le week-end, ils avaient tellement d'absents, tellement de blessés, tellement de joueurs mis au repos après le championnat des nations, et arriver à aller s'imposer à Montpellier comme ils l'ont fait, oui, plus que crédible, bien sûr.
Ouais, pareil Étienne.
Ouais, je suis d'accord. Moi, alors ils m'ont contredit, parce que je les avais pas mis dans le top 6 en pronostic.
Tu sais qu'ils l'ont signé en
vendredi, ouais, je pense.
Donc Ronnie l'a dit aux joueurs.
Ils ont venus, ils sont arrivés, ils ont dit attends, Étienne Machin ne les a pas mis dans le
top 6. Ils avaient pas mis dans le top 6,
quoi,
et ils m'ont fait démentir là, parce que je les voyais pas. Enfin, je les voyais faire un gros match à Montpellier, mais de là à les gagner avec cette manière. Non, ils montrent que l'année dernière n'était pas un accident ou une grosse saison, on va dire, surtout. Que ça n'arrivait pas par hasard, et cette année ils montrent de suite qu'ils vont être un candidat.
Très sérieux, sachant qu'en plus ils sont allés gagner du côté du MHR sans Fabien Broboiry, sans Théo Attistogbé également, qui était encore convalescent avec la tournée d'été, sans Arfeuil, qui était encore un peu juste, mais du coup c'est une équipe...
Le talonneur aussi argentin n'était pas là.
Exactement, oui. Montoya, mais en effet c'est une équipe avec beaucoup plus de profondeur, et donc du coup beaucoup plus dangereuse. Quid des autres équipes? C'est marrant, il y a une stat que j'ai vu passer, je crois que c'est la sixième année de suite que le Loup Rugby commence le championnat de top 14 avec une victoire. Ça se complique toujours un peu, mais néanmoins on a l'impression que là, le Loup, est-ce que c'est un feu de paille, ou alors on peut enfin tous s'enthousiasmer et pas les mettre dans la lutte au maintien, et peut-être les voir jouer concurrencer top 8, top 6?
Bah, c'est sûr que cette victoire face à Clermont va leur faire du bien. Après, aller concurrencer un top 6, top 4, j'irai pas jusque là encore, parce que la deuxième mi-temps a montré que quand Clermont a vraiment accéléré à faire rentrer son banc, Lyon était absent et
était limite,
oui. Donc je pense que ils ont très bien joué les Lyonnais, hein. Ce week-end, je suis pas en train de dire le contraire, mais quand Clermont a vraiment accéléré, Clermont était au-dessus et a surtout loupé sa première mi-temps, et c'est ce qui a permis aux Lyonnais de direct mener presque 20-0,
je crois.
20-0, oui, il y avait ça. Donc voilà, mais c'est sûr que cette victoire-là va leur faire beaucoup de bien, de la confiance. On a vu en plus un Léo Berdeux justement, et cette saison va être très intéressante, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a la Coupe du Monde en ligne de mire pour beaucoup de joueurs, et même un Léo Berdeux, il peut essayer d'aller tester peut-être, pourquoi pas, un troisième choix. Ça va être compliqué pour lui, mais
il y a du monde quand même.
Il peut quand même aller, il peut aller se tester. Oui.
Et Antoine Astoy s'est également illustré dans ce rôle-là avec La Rochelle. D'ailleurs, La Rochelle, on peut les mettre également dans équipe qui va être pénible à jouer toute la saison.
Ah,
Et puis, on l'a vu hier, Nolan Le Garrigue très en forme, et surtout Ronan O'Gara, il n'a pas peur de faire tourner à la 30e si ça va pas, quoi.
Non, c'est vrai que c'était tôt, hein, ça nous a tous surpris de voir ces changements si tôt. Il y a eu des imprécisions des deux côtés dans ce match, mais il y a eu quand même beaucoup plus d'envie du côté Rochelais que du côté Toulousain. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait sur les impacts, sur la détermination à aller chercher des ballons. Ils étaient toujours premiers dans l'envie, dans l'impact. Les Toulousains étaient à la ramasse sur ça. Et s'ils gardent ce feu, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas titiller les quatre premiers à la fin de la saison.
Bon, en tout cas, je vais vous donner le 15 type composé par Sud Radio Rugby pour cette première journée de Top 14. La première ligne, c'est le joueur du Stade Français, Abraham Mjvili, Lucas Martin, talonneur, Tatafou, l'autre pilier, deuxième ligne, John Mess, Mac Ferland qui a commencé, je le rappelle, en troisième ligne, mais qui a glissé dès la 30e minute, du coup, en deuxième. La troisième, c'est Woki, Hamish Watson de Castres et Tom Willis de l'UBB. La charnière, c'est Nolan Le Garrec, Simmons de Pau, les ailiers Dumortier du Loup Rugby et Martha de Pau, la paire de centre Godou de Castres et Gaëton de Pau, et l'arrière Gabalor du Loup Rugby.
Et qui a fait ce magnifique 15 type?
Ben, ce 15
qui est
type,
à l'origine de ça,
c'est la rédaction de Sud Radio Rugby.
Quel talent!
Voilà,
c'est précis, bravo.
Parce qu'il y a des joueurs qui te.
Ah non,
qui
non, c'était pas ironique, non, c'était vraiment premier degré, j'ai trouvé très juste, très précis.
Ouais, très fort.
Écoutez, c'est moi du coup. voilà. Messieurs, juste un dernier mot avec vous. Sur cette première journée, on a vu, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Julien, sur l'état de forme des différents joueurs. On a vu un top 14, une première journée très serrée, avec vraiment des matchs qui se jouent à très peu, avec des équipes parfois qui étaient vraiment à mi-temps, parfois des mi-temps remplis. On pense notamment au Stade Français, 28 points, une mi-temps, 0 points en seconde période. À l'inverse, Perpignan, qui avait mis que 6 points en première, avait mis 20 points en deuxième, et donc ça se finit à 2 points. Est-ce que on va connaître ça, et peut-être des surprises du coup dans ces 2, 3, 4, 5 premières journées, avec peut-être l'état de forme qui laisse à désirer, des ajustements techniques, tactiques qui vont se mettre en place. Est-ce que ça va nous offrir des surprises pour ce début de championnat, et donc du coup peut-être pour la suite même?
En tout cas, cette première journée, elle est vraiment placée sous le signe des remontadas. On en a vu quasiment sur tous les matchs, des premières mi-temps à sens unique et des deuxièmes mi-temps à l'autre sens unique. C'est le cas aussi pour Castres-Van, ouais, exactement,
Clermont,
Stade Français Perpignan, tu l'as dit,
et
même Toulon. Mais même La Rochelle-Toulouse, au final, ils remontent 14 points et ils remontent 10, ouais, c'est un 17-0 en deuxième mi-temps. Ouais, voilà. Donc, 17-3, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que certains bancs ne sont pas prêts, il doit y avoir des problèmes, en tout cas, encore en préparation, et c'est pour ça qu'ils donnent cette excuse-là. Peut-être tous les entraîneurs, je sais pas. On va voir si ça continue comme ça. En tout cas, oui, faudra jamais vendre aucune peau de l'ours avant de l'avoir tué.
En tout cas, c'est vrai que la préparation, c'est quelque chose de compliqué, Étienne. L'idée, c'est d'être en effet prêt pour le début du championnat, mais surtout ne pas avoir un creux trop violent, peut-être autour de décembre, janvier, avoir une préparation aussi à long terme. C'est un long marathon, on le rappelle, le top 14, et donc du coup, gérer les effectifs, gérer les corps des joueurs, c'est aussi tout un casse-tête pour les management et les managers de ce top 14.
C'est un casse-tête. En plus, on l'a vu sur cette première journée, il y a déjà eu beaucoup de casses dans beaucoup de clubs, des joueurs importants. On a vu Léo Colli déjà sortir.
Barassi.
On a vu Barassi. Le Garrec qui, hier, a dit en conférence de presse qu'il avait senti que ça avait craqué. Ouais, ça commence déjà mal pour certains joueurs. Et le top 14 est un marathon de 26 journées. Vous commencez en septembre, vous avez déjà commencé même en août avec la préparation, voire même juillet pour certains clubs. Ça se termine fin juin. C'est très long pour les joueurs.
Ça coûte pas, et ça coupe pas à Noël.
Et ça ne coupe pas à Noël.
Boxing Day, donc ça coupe pendant le tournoi.
Ça coupe pendant le tournoi. Vous avez peut-être aussi une coupure pendant autour de l'automne.
Ouais, avec les matchs de l'équipe
de France.
Une semaine, je crois.
Mais ouais, c'est très très long, et chaque club sur cette journée a montré qu'ils pouvaient être là, qu'ils vont défendre leur peau, mais que ça soit pour le maintien, pour aller chercher des places en Coupe d'Europe l'année prochaine et pour le top 6. Je pense que cette année avoir un top 14 très très intéressant.
Ouais, l'écart se resserre. On le dit chaque année, mais je crois que ça n'a jamais été autant le cas que cette année.
Alors
on a une journée, on va voir.
Oui.
Mais franchement,
même
vu le
promu
niveau,
Van semble prêt à en découdre et avec une vraie profondeur de banc
aussi pour le coup pour rejoindre Etienne.
Ouais. En tout cas, là, on s'est posé la question, est-ce que c'est la bonne année, est-ce que c'est la bonne saison de l'UBB? On le verra au fur et à mesure des semaines, mais c'est vrai que c'est l'équipe qui a forcément impressionné ce week-end, la seule équipe qui a ramené un bonus offensif. Et donc, du coup, merci Étienne Machin, merci Julien Delmas. Si vous voulez répondre à cette question, n'hésitez pas à commenter, à écouter en podcast également sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, sur Sud Radio Rugby, l'application, sur Sud Radio Rugby également, .fr, sur Sud Radio Rugby, les réseaux sociaux gérés de main de maître par Étienne Machin. Et nous, on se retrouve vendredi pour la causerie avant la deuxième journée et donc ce Toulouse-Bordeaux qui nous fait saliver, mais également un multiplex de folie à vivre samedi prochain. Merci messieurs et très bonne semaine de rugby à l'écoute de Sud Radio.